Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
On poursuit la conversation, évidemment, sur cette émission spéciale, l'affaire Camara, là, bon, que je vous ai expliqué plus tôt. On a eu des invités. Mais quand on analyse une situation comme ça, il faut y aller sous tous les angles. Et évidemment, il y a l'angle policier qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Comment on a fonctionné. Il y a des questions aussi qui se posent sur même les caméras corporelles. On en parle plus avec cet événement-là. Et bon, pour y voir clair du côté policier, on est avec Daniel Clérou, policier à la retraite, analyste d'affaires policières. Salut, Daniel.
Bonjour, M. Daniel.
Toute qu'une affaire, on aimerait voir avec toi l'aspect policier. Bon, on va commencer par le début. Comment tu vois ça, cet événement-là? Là, je rappelle un peu les faits. Ce serait un policier qui fait une arrestation. Ça semble être des contraventions. Il y a une caméra du MTQ qui est là. Et là, arrive l'altercation. Le policier fuit parce qu'il s'est fait désarmer. Il s'est fait tirer dessus. Toute cette histoire-là. Comment ça se passe sur le terrain? Beaucoup de gens se disent, comment ça, le policier, il ne sait pas c'est qui? Il n'a pas vu la personne?
Ah ben ça, on commence du début, là.
Ouais.
Effectivement, il y a une interception. C'est un policier qui s'occupe du contrôle routier. Et il semblerait qu'il arrête quelqu'un pour avoir l'utilisation du cellulaire au volant. Il prend ses papiers, il s'en va dans l'auto, et ce qu'on apprend par après, c'est qu'il reçoit un coup, probablement de barre de fer, et il se fait désarmer, enlever son ceinturon. Là, on part tout de suite de ce principe-là au niveau de l'opération. Il y a quelque chose qui ne marche pas à ce niveau-là.
Okay.
Je dis pas, je blâme pas personne. Là.
Non, non.
Si le policier a réussi à se faire, il y a quelqu'un qui a réussi à y enlever son arme, mais pas juste y enlever son arme, y enlever son ceinturon, c'est soit qu'ils se sont tiraillés bien longtemps, ou bien le policier est inconscient puis il se fait enlever son ceinturon.
Ouais, parce qu'il y aurait une histoire de coup de barre de fer, là, en tout cas,
ce que j'ai compris.
Ça. Ouais.
Moi, je peux dire, François, dans ma carrière, je me suis souvent tiraillé, puis pas juste avec une personne à la fois. Des fois, ça allait pas bien. Surtout que moi, j'ai connu l'ère des motards, des
Altos
au début. Il aimait ça, se tirailler. Il n'y a jamais personne qui a réussi à m'enlever mon ceinturon. En partant, mon ceinturon est attaché après ma taille.
Mm-hmm.
Il y a du velcro, il y a des straps. Pour être capable de l'enlever, il faut quasiment que le policier ait été en partie inconscient ou
mais il peut tout seulement souvent on voit la clip là, sur l'arme à feu là, il peut-tu déclipper ça puis sortir l'arme à feu?
Ça pourrait être ça.
Okay.
Mais maintenant les étuis à pistolet sont très sécuritaires. Pour pouvoir l'enlever, il faut que la personne soit vraiment dans la position où ce que on peut sortir l'arme à feu, parce qu'il y a comme des écrous ou des petits crochets de sûreté, et puis il y a une façon de l'éclipser, et c'est une formation en tant que telle. Juste sortir l'arme et la remettre de l'étui, c'est une formation que les policiers ont qui dure plusieurs heures et qui est répétée sans arrêt. Donc, si on part de ce principe-là, si c'est fait désarmer, moi, je pense que il y a un moment donné où ce que le policier a été en partie inconscient ou un peu inconscient.
Je comprends.
À cause du coup de barre de fer.
Mm-hmm.
Dans un deuxième temps, ben là, on parle du policier qui s'est enfui. Ben c'est sûr que s'il revenait à lui puis il n'y a plus son arme, c'est un réflexe naturel, là. La fuite ou une barricade, puis ça presse. C'est que là, il s'est enfui et finalement, il a réussi à appeler de l'aide. En appelant de l'aide, au niveau de l'opération, moi, ce que je pense, policier informe, j'ai arrêté tel individu. Les coordonnées de l'individu sont dans l'ordinateur. J'ai des papiers dans l'auto. Et voilà sa description. Ça devient le suspect numéro un en tant que tel.
OK.
Pour la majorité, pour les policiers qui s'en viennent porter assistance, M. Camara, devient le suspect numéro un. Mm-hmm. Là, maintenant, on dit, on a des caméras qui le démontrent. Oui, mais là, j'ai écouté la conférence, je pense que c'est M. Caron, inspecteur chef, qui dit, oui, mais les caméras sont pas claires au début et le visionnement est fait de très loin. Donc, on a tous les éléments qui peuvent porter à croire que la caméra est le suspect numéro un et que c'est probablement lui qui a agressé le policier.
Okay.
On apprend aussi par après que Camara, ça serait lui qui aurait appelé la police. Mm-hmm. Mais c'est pas parce que c'est lui qui a appelé la police que c'est pas lui qui l'a fait. Faut se rappeler qu'on n'a pas retrouvé l'arme encore. Hein. Ben, du moins, avec les informations que je tente d'avoir présentement, on n'aurait pas encore retrouvé l'arme.
Non.
Donc, il demeure quand même, on va dire, un témoin important dans mm-hmm. l'enquête.
Oui. Puis le vidéo, ce qu'on comprend, c'est que c'était pas peut-être pas si clair à comprendre ce qui se passait là. Mais oui. est-ce que c'est de la fabulation de croire que c'est peut-être un dossier émotif pour les policiers que... Parce que, bon, dans tous les domaines, on le sait, moi, en droit, c'est pareil. Quand on devient émotif, on devient des fois peut-être moins bon là, parce qu'on veut trop et on a moins la tête froide. Est-ce que dans oui. ce dossier-là, ça se peut, puis pas pour tirer des roches, mais est-ce que ça se peut quand un confrère est attaqué qu'on veut trouver le coupable?
Oui, c'est possible. Et je suis obligé de dire que le policier qui a été attaqué, lui, il devait être très, très, très émotif.
Mm-hmm.
Donc, lui, l'information que probablement il a, à sa connaissance, c'est « Camara, je me suis fait voler mon arme, puis je me suis fait tirer dessus.
Mm-hmm. »
C'est probablement ça qui il trotte dans sa tête, parce que s'il y a un deuxième suspect, on laisse prétendre présentement qu'il y a un deuxième suspect, il n'a probablement pas venu, il n'a pas vu venir ce suspect-là.
C'est
il a
ça.
Mangé un coup de barre en arrière de la tête, là. Il ne l'a pas vu venir certain, là, parce que.
Mm-hmm. Mais pour ne pas le reconnaître aussi, il n'a pas dû engager grand conversation. Là.
Non, il ne doit pas avoir eu une intervention physique avec le deuxième suspect.
Mm-hmm.
Donc, ce que je crois, du moins à la lecture que j'en fais, l'analyse que j'en fais, c'est que. Au moment de l'événement, Camara est le suspect et les policiers, l'information qu'ils ont de leurs collègues, ils n'ont pas de raison de ne pas le croire, ben ça fait que c'est Camara le suspect. Donc, ils l'arrêtent. Et là, faut faire attention, j'ai entendu des gens dire « on a probablement fait du profilage ». Franchement, lorsque les policiers donnent une description sur la route, là, bon, je ferai pas le cas de Camara, mais je vais dire « on recherche un homme de cultures différentes, avec la peau noire et un kangourou. Mais on ne cherche pas un blanc. On cherche quelqu'un qui a la peau noire.
Ouais.
Donc, dans le cas-là, je ne pense pas qu'on a fait du profilage, d'autant plus que ce que je comprends, c'est que c'est Camara qui a appelé. Et c'est lui qui est le témoin ou le suspect numéro un au moment où on l'arrête.
Mm-hmm.
Donc, c'est normal que ce monsieur-là, on l'amène puis qu'il soit arrêté. De là maintenant à dire qu'on le détient, c'est toute la preuve qui s'ensuit par après, la façon dont les policiers vont recueillir le reste de la preuve.
Ben oui. Puis la détention, ça, je peux l'expliquer, la dangerosité qu'il faut regarder. Puis une fois ça. Qu'on pense que c'est lui, c'était pas anormal de le détenir, là. C'est plus non. avant. Mais pour ce qui en revenait au profilage, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que quelqu'un est de couleur, on a une facilité à conclure plus vite que c'est un prévenu. Est-ce que dans le domaine policier, ça pourrait être vrai, là?
Bien, c'est sûr que souvent, on se fait taxer de penser comme ça. Mais comme je disais tantôt, on n'a pas arrêté n'importe quelle personne de couleur sur la rue, là, en tant que suspect. On a arrêté la personne dont les informations sont dans l'ordinateur de l'auto de police, dont les papiers sont dans l'auto de police et qui a été interceptée et qui s'est mentionné par le policier qui fait l'interception, que c'est Camara qui était là. Donc, on n'a pas profilé quelqu'un, là.
Mm-hmm.
On a arrêté quelqu'un qui est le témoin ou le suspect numéro un.
C'est ça.
Et de là, ben, maintenant, on l'arrête. On a tous les motifs raisonnables de croire que ça peut être lui. Les policiers, ils l'ont pas détenu pour le plaisir. Ils ont demandé, tu sais comment ça fonctionne, ils ont demandé la permission au DPCP de le détenir. Et là, ben, il y a comparution, puis on doit présenter une partie de la preuve pour savoir si on continue ou non. Et quand vient le temps de présenter la preuve, on s'aperçoit que ça marche plus, c'est probablement pas le bon gars qu'on a, ou on n'est pas capable de démontrer correctement. Donc, il reste encore témoin numéro un dans l'affaire, M. Camara, là.
Oui, c'est ça. Il y a eu, ça on l'a expliqué, il y a eu retrait, mais il y a toujours une année pour redéposer s'il s'avérait que c'était lui. Mais on s'entend qu'il n'y a pas trop le profil. Là, je comprends qu'un criminel n'est pas toujours vêti de son habit de criminel, là, comme on dit, mais il y a de fortes chances que ça ne soit pas lui. Mais je comprends qu'il reste dans l'enquête. Mais il reste que si on n'avait pas eu cette vidéo-là, il aurait passé, je veux dire, ça aurait été long, les procédures. Et puis là, il nous reste seulement une minute et demie, mais les caméras corporelles, est-ce que ça devrait être nécessaire? Parce que s'il n'y avait pas le vidéo du MTQ, là, lui, là, il passait dans le procès, puis c'était peut-être une grosse erreur judiciaire, là, cette histoire-là.
Oui, bien, je pense que s'il n'y avait pas eu les caméras de la MTQ, effectivement, ça aurait probablement été long, peut-être difficile à démontrer. Caméra aurait eu vraiment une grosse preuve à démontrer. Mm-hmm. Je pense qu'il s'en serait sorti parce que on n'est plus de l'ère du western, là, où ce qu'on accuse n'importe qui juste pour accuser. Ouais. Les preuves auraient probablement démontré que c'est pas lui. Mais si j'en reviens aux caméras corporelles, j'ai longtemps été contre, je suis de plus en plus pour, parce que de toute façon, les policiers sont filmés par toutes sortes de gens. Et tout ce qu'on voit présentement, c'est seulement ce que les gens veulent nous montrer, alors qu'avec les caméras corporelles, on va avoir la scène au complet, on va savoir ce qui s'est passé avant, on va savoir ce qui s'est passé après, et on va aussi entendre tout ce qui s'est dit, que ça en vienne là. Moi, je pense que les caméras corporelles, c'est l'option qui s'en vient. Et caméra dans l'auto aussi, là, sur le
dash, comme on dit en bon Québec.
Le dash, comme on dit, là, c'est ça.
Bon, ben, des vidéos sans montage, parce que des fois, quand c'est le voisin qui filme sa rue, c'est pas tout le temps évident, oui, à avoir l'entièreté. Mais évidemment, avec ces fameuses exceptions de confidentialité. Merci beaucoup, Daniel Quiérou, d'avoir éclairé. Très intéressant.